Nous allons mettre un terme à notre étude sur le mystère de la vie et mystère de la mort. Et nous allons parler de l'héritage des saints. L'héritage des saints, héritage de la vie éternelle. Nous allons lire d'abord Éphésiens, chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ainsi, il y a un héritage réservé aux saints. Cet héritage est situé dans la lumière. Et les saints, j'aime les appeler ici, ce sont les consacrés de l'Église. C'est encore mieux que de dire les membres de l'Église, parce que membre de l'Église, faut toujours préciser membre du corps de Christ, véritable membre du corps de Christ et non membre de l'Église locale. Les saints sont des héritiers. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ce sont des héritiers. Cette notion d'héritage occupe une place importante dans la Bible. On ne souvent s'en rend pas bien compte, et cependant c'est ainsi. La révélation du plan divin de salut des hommes met en lumière cette notion de l'héritage que Dieu accorde, que Dieu réserve à ses saints. Un héritage, selon la Bible, ce n'est pas la possession d'un bien par suite d'une succession survenant à la mort d'un parent. Il y a bien, le mot héritage est bien quelquefois employé dans ce sens tout à fait temporel, terrestre, mais disons que l'héritage qui nous intéresse, c'est une attribution de Dieu, une attribution à ceux qui, devenus ses enfants, sont entrés réellement dans une filialité nouvelle, sont des fils ou des filles adoptifs ou adoptives et des frères de Jésus-Christ. Mais enfin, dans le masculin, il y a aussi le féminin. Donc, fils adoptifs et frères de Jésus-Christ. Nous avons été prédestinés à porter l'image du Seigneur Jésus-Christ, lui, le premier-né entre beaucoup de frères, pas plusieurs, mais beaucoup de frères, une foule de frères, une foule, par conséquent, d'hommes et de femmes sauvés, qui sont entrés dans une filialité avec le Seigneur Jésus. L'idée de filialité est très importante, il ne faut pas y voir une image seulement, il faudrait même souvent écarter le principe de l'image, il ne faut pas le mettre à tout ce principe, Et il faut voir qu'il y a une filialité réelle, c'est une filialité de l'esprit, mais c'en est une. C'est une filialité. Il y a un lien qui est situé dans les Écritures comme le lien de frère à frère avec le Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, nous sommes fils adoptifs du même Père, du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père céleste, notre Dieu. La propriété héréditaire est une affaire terrestre, mais Dieu, lui, a préparé un héritage qu'il réserve aux saints, et cet héritage est un don de Dieu. Il sera, cet héritage, le cadre de la vie éternelle après la résurrection, et on peut presque dire aussi après le millénium. Là, l'héritage, la jouissance de l'héritage sera alors complète. Oh, ce n'est pas tellement ce qui peut, surtout dans le brouillard de nos pensées humaines, ce qui peut tellement nous attirer. En général, on n'est pas, faut bien l'avouer, tellement attiré par la nouvelle terre, la cité céleste, car nous verrons que c'est là l'héritage de Dieu, dans son aspect objectif. Eh bien, on n'est pas tellement attiré, ça il faut bien le dire, parce que, je vous dis, nous sommes très gênés par nos pensées humaines. Si on laissait, en somme, libre cours aux pensées de pas mal de chrétiens, ils préféreraient de beaucoup un héritage sur cette terre-là. Qu'on mette la paix sur cette terre, qu'il n'y ait plus de maladies, qu'il n'y ait plus d'accidents. Ce qui aura lieu dans le millénium, avec cette réserve toutefois que la mort ne sera pas encore détruite, et que tout homme qui péchera pendant le millénium sera immédiatement retranché. Chaque matin, la verge de fer. Ah, ce ne sera pas le temps de la grâce. Ce sera le temps de l'amour et ce ne sera pas le temps de la grâce. C'est curieux, ça. Mais le millénium n'a qu'un temps. Le millénium est un règne intermédiaire, temporaire, pour que le Fils de Dieu puisse mettre tous ses ennemis sous ses pieds, et quand il aura mis tous ses ennemis sous ses pieds, alors viendra la fin du millénium, il remettra à son Père, qui lui a soumis toutes choses, il lui remettra ses pouvoirs, pour que, alors, le règne se continue hors du temps. Tout cela demande beaucoup de méditation, mais c'est magnifique, régner hors du temps, avec tous les saints, dans un nouveau cadre, la nouvelle terre dont il est parlé dans l'Apocalypse. La possession de l'héritage que Dieu réserve aux saints, dépend de deux choses. Il dépend des promesses de Dieu, bien sûr, et il dépend aussi de la fidélité du peuple de Dieu et de la sanctification. Il y a des hommes qui, bien qu'ils auront pu peut-être dire sur la terre qu'ils étaient de l'Église, des hommes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y a des hommes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il faut bien se le dire et le voir. On pourrait dire, ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi, moi je suis sûr d'hériter. Ah. 1 Corinthiens 6, 8. 1 Corinthiens 6, 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Alors là, il faudrait remonter un peu au verset 6. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ah, les injustes, ceux qui n'auront pas vraiment voulu, entendu, progresser dans cette pratique de la loi de Dieu, des lois de Dieu, et qui se seront tenus dans l'injustice ou dans l'iniquité, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ensuite l'apôtre dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Mais bien sûr, ce que dit l'apôtre et ce qu'il va dire après, c'est qu'il faut le rester. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Or, aujourd'hui, dans cette énumération, peut-être va-t-on dire, oh, adultère, ça c'est le cas de quelques-uns, des cas, disons, accidentels. Les voleurs, les infâmes, les cupides, les ivrognes, on ne fuit pas tout ça. Hein. Mais les impudiques, les efféminés, les impudiques, quand, qu'est-ce que vous voulez, il faut le dire, comment caractériser l'impudeur? Eh bien, voyons le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament nous le montre, c'est pas la peine d'aller chercher l'Ancien Testament. Parce que pour se servir de l'Ancien Testament, il faut certaines notions, il faut une certaine sagesse, il faut savoir transposer dans notre temps, il est utile bien sûr, mais les impudiques, ce sont ceux qui s'habillent sans pudeur, ceux ou celles qui s'habillent sans pudeur, ce sont des impudiques. Et la pudeur, c'est une chose qui est chrétienne et qui est enseignée dans le Nouveau Testament. N'allons pas dire alors que nous faisons la loi. Allons pas nous dire que nous faisons la loi, puisque nous nous référons au Nouveau Testament. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, on laisse faire. On laisse faire, on m'a posé plus d'une fois cette question de pantalon féminin, oh là là. Ça, ce sont de ces problèmes qui sont un peu irritants parce que du fait qu'on les pose, eh bien ça prouve qu'on n'a pas tout à fait un esprit d'obéissance. Je ne fais pas la loi sur le pantalon féminin, pas plus que sur autre chose. Moi je ne suis pas là pour créer une mode qui serait la mode correspondant au Nouveau Testament, satisfaisante devant le Nouveau Testament, nous ne sommes pas là pour ça, mais nous pouvons dire ceci, c'est que le pantalon que portent beaucoup de femmes aujourd'hui, enfin il paraît que la mode ces temps-ci va l'écarter un peu, tant mieux. Tant mieux, j'ai entendu ça. Mais il faut dire que ce pantalon est impudique, mes amis. C'est un pantalon qui moule, qui est serré. Qu'est-ce que c'est que cette tenue qui moule une femme? Mais enfin, tout de même, enfin, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes, admettons-le, c'est impudique. C'est impudique, tout simplement. Alors, du côté des hommes, eh bien, le caractère, tout ce qui donne un caractère d'efféminé, efféminé. Vous avez des hommes, vous demandez assez souvent si c'est un homme ou une femme. Il y avait un dessin humoristique il y a quelque temps dans un journal, on voyait de dos deux personnes sortir de la mairie en pantalon naturellement et des cheveux très longs. Et puis alors, ils partaient, ils quittaient la mairie, ils venaient de se marier. Alors il y en a un qui pose une question à l'autre et dit, mais où est la femme? Où est la mariée? Alors l'autre cherche et puis dit, ça doit être celui ou celle qui porte le bouquet. Ça doit être ça. Qu'est-ce que vous voulez? c'est quelque chose, n'est-ce pas, qu'il y a, disons les choses nettement, dans ce temps, une propension épouvantable à l'homosexualité, alors, vous voyez tout de suite le rapport, n'est-ce pas, le rapport, les efféminés. Hein, ça ressemble, tout de suite, ça fait penser à des homosexuels, d'autant plus que l'homosexualité ben, est baptisée d'un autre nom maintenant, elle ne s'appelle plus comme cela, et c'est quelque chose d'officiellement reconnu, c'est même, il y a même, on a même fondé une église protestante pour les homosexuels. Oui, on a même fait des quêtes. On a même fait des quêtes, on a demandé un peu partout de donner de l'argent pour la fondation de cette église. Nous en sommes là dans notre temps, n'est-ce pas? Nous allons tout droit à Sodome. Alors, chers amis, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais que dans les églises locales, il y ait du laisser-aller là-dessus. Et je n'admets pas parce que la parole de Dieu ne permet pas de l'admettre, c'est une désobéissance flagrante à la parole de Dieu que de s'habiller d'une façon impudique. C'est se placer avec les impudiques. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est clair, c'est net, n'est-ce pas? Habillons-nous, certes pas la peine de s'habiller d'une façon spéciale, mais habillons-nous d'une façon pudique, simplement, même en laissant pas mal de champs. Aux exigences de la mode, on peut très bien s'habiller d'une manière pudique. Alors, cela dit en passant, n'est-ce pas, il faut bien faire attention, il y a des gens qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et tout ce qui sera fait, non seulement en matière de vêtements, mais tout ce qui sera fait dans la vie courante, de par un esprit de révolte, ou un esprit... de liberté prise à l'égard de la parole de Dieu. On veut se donner de la liberté à l'égard de la parole. Eh bien, tout ce qui sera fait dans cet esprit-là, chers amis, nous privera de l'héritage du royaume des cieux. Entendons bien cela. Si je garde dans mon cœur cet esprit de liberté à l'égard de la parole de Dieu, d'une façon générale, eh bien, je ne suis pas parmi les saints pour qui Dieu réserve un héritage. Cet héritage est situé dans la lumière. Il faut que mon cœur soit dans la lumière, mon cœur principalement. Et si mon cœur est dans la lumière, tout ce que je le ferai, bien entendu, avec l'esprit d'obéissance et de soumission à Dieu. Voilà. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. L'Apocalypse le dit aussi pour une autre catégorie de gens. Apocalypse 22, verset 18. Et ça, on ne s'en soucie pas toujours suffisamment. Et j'estime qu'on n'est pas suffisamment prévenu contre ces choses-là aujourd'hui. C'est pour ça que j'y viens et que j'y insiste. Apocalypse 22, 18. Je le déclare, et c'est Jésus qui déclare ça, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi. » Celui qui atteste ces choses se nomme Jésus. Voilà. Alors, ne pas ajouter et ne pas retrancher quelque chose des paroles du livre de cette prophétie. Eh bien, on dira, ça c'est l'Apocalypse, le livre, vous comprenez? Le livre c'est le 66e, c'est l'Apocalypse. Et me dira-t-on, ça n'intéresse pas les 65 autres livres qui composent la Bible? Alors, je ne sais pas si quelqu'un aurait l'audace de dire cela. Mais s'il avait l'audace, je lui montrerais qu'il est un faux prophète. Parce que ce qui est dit ici couvre l'ensemble de la Bible, c'est facile à démontrer. Vous retrouvez d'ailleurs des prescriptions du même ordre dans le Deutéronome, notamment dans les Proverbes, dans d'autres parties de la Bible. Et nous savons que l'Apocalypse est la révélation qui couronne la révélation de la Bible, la révélation qu'est la Bible, n'est-ce pas? C'est la révélation par excellence, la révélation finale, terminale, et que c'est, si vous voulez, la grande conclusion apportée au livre de Dieu. Et par conséquent, ce que le Seigneur dit là, il le dit de toute la Bible. Ah, et je pense, vous dis que je ne sais pas si quelqu'un s'aventurerait à me dire, ah ben, on peut retrancher dans les 65 autres livres, mais pas dans le 66e. Ben, alors si on peut retrancher quelque chose ou ajouter quelque chose dans les 65 autres livres, c'est que on peut modifier la parole de Dieu. Eh bien, ceux qui modifient la parole de Dieu, Dieu retranchera leur part de l'arbre de vie, autrement dit, ils n'hériteront pas. Ce sont encore des gens qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, on dira, même moi, oh là là, je ne retranche absolument rien, je garde toutes les pages de ma Bible, je me suis même assuré qu'il n'en manquait aucune, j'ai une Bible complète, je garde tout, et je considère que tout est parole de Dieu. Bien, alors est-ce que c'est suffisant cela? Non. Non. Si tu as ce principe, tu as un bon principe. Bon, mais c'est pas fini. Il ne faut pas que tu retranches ou que tu ajoutes par tes interprétations à toi, par des interprétations, par exemple, restrictives. On peut très bien, n'est-ce pas, ne rien rayer du texte de la Bible, mais dire, oh, mais cela n'est plus pour aujourd'hui, ou alors, oh, mais cela s'est dépassé, ou cela, on peut l'appliquer, mais d'une façon spirituelle, etc., etc. Vous voyez le moyen de retrancher? C'est facile, hein, par des interprétations, par de mauvaises spiritualisations, comme on dit, spiritualiser. Souvent, spiritualiser, ça veut dire retirer tout simplement l'aspect concret d'un passage, d'un commandement, n'est-ce pas? Et puis alors, d'en faire quelque chose de tellement éthéré que ça s'en va, ça s'éloigne de nous, puis on n'en tient plus compte. Et c'est une manière de retrancher. C'est ça, c'est comme ça que l'on retranche. Rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus nous a dit déjà avant d'écrire que l'Apocalypse soit écrite et que Jésus n'ait inspiré à Jean, n'ait donné à Jean ces paroles-là, n'est-ce pas? Il avait parlé lui-même par sa propre bouche et il avait dit ceci dans Matthieu 5 et verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, vous n'hériterez point le royaume. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, or on en revient à une justice de pharisiens et de scribes, en triturant la lettre et en essayant de faire dire à la lettre ce qu'on veut, prenant de la liberté vis-à-vis des commandements de Dieu, ils n'hériteront point. Vous voyez que c'est infiniment grave. Infiniment grave. Et il faut que le peuple de Dieu soit averti de cela, de cette gravité. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pas la peine, n'est-ce pas, de dire oui, mais Dieu est amour. Le Seigneur Jésus, dans ses paroles, nous a montré que quand il reviendrait, il ne serait plus celui qui est venu pour sauver, mais pour pas pour juger, mais pour sauver, n'est-ce pas? Il viendra là pour juger. Et ceux qui lui diront, oh Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait même des miracles par ton nom? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que c'est que commettre l'iniquité? C'est n'avoir pas respecté la justice de Dieu. Alors retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous n'avez jamais vécu dans ma communion, et je n'ai pas de lien avec vous, vous ne pouvez pas non plus hériter, vous, le royaume des cieux. Alors, nous avons vu ce côté négatif, mais il était nécessaire que nous le considérions. Actuellement, je crois que dans le temps actuel, il faut avertir, avertir. Et c'est l'avis de quelques personnes, notamment pasteurs, avec qui je me suis entretenu, n'est-ce pas? Il faut absolument avertir, avertir. Parce qu'il y a un vent de liberté qui souffle, n'est-ce pas? Et il faut absolument arrêter ce vent-là. Sans être des piétistes. On nous accuse souvent d'être des piétistes. Si on n'est pas des légalistes, on est des piétistes. Alors, peu importe cela, n'est-ce pas, il y a un vent qui souffle, alors c'est un danger, il faut avertir les enfants de Dieu. Si tu n'avertis pas, toi-même tu te rends coupable. Et je vous assure que je connais quelqu'un qui a fait de tels, je connais même deux, trois, qui ont fait de tels avertissements, et ils s'en sont trouvés très bien, chers amis. Croyez-vous que les chrétiens, pour autant, les vrais chrétiens, se soient défilés de l'église, là, soient partis, parce que le pasteur est trop rigide, trop absolu? Non, non, ça les a amenés à se sanctifier à nouveau. Et ils ont compris qu'ils étaient dans l'erreur, et qu'il fallait vraiment se sanctifier à tous égards, aussi bien dans le concret, dans l'aspect extérieur de la personne, dans le mode de vie, que spirituellement parlant. Les promesses d'un héritage de Dieu remontent à Abraham. Il faut que nous sachions, c'est le grand lien, un des grands liens avec les anciennes dispensations, avec l'Ancien Testament, ou si vous voulez, les promesses remontent à Abraham. Voyons ces promesses, elles sont dans Genèse 17 notamment, verset 1, « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, hein, 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » C'est ce que signifie Abraham. « Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Alors, dans ces promesses, nous en avons deux, n'est-ce pas, deux qui s'imbriquent. Mais il y a deux promesses, il y a une promesse qui intéresse toutes les nations, père d'une multitude de nations, et ça, c'est pas seulement père d'Israël, puisque c'est père d'une multitude de nations, et je te rendrai fécond à l'infini. Alors ça, c'est pas simplement la fécondité qui a donné la descendance appelée peuple d'Israël, qui peut-être aujourd'hui peut être évaluée à 16 millions sur la terre, hein, quelque chose comme ça. Ce n'est pas cela, n'est-ce pas? C'est bien plus que cela. C'est tous ceux qui seront sauvés. Et si l'on regarde par exemple cette foule du chapitre 7 de l'Apocalypse, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens anciens et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. » Alors ça, n'est-ce pas, ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation, mais ici, grande tribulation ne veut pas dire les 42 mois ou même les 7 ans de l'Antichrist, n'est-ce pas? Non, non, on a mobilisé ce terme-là, cette expression. La grande tribulation, c'est depuis le meurtre de Caïn. C'est ça la grande tribulation, c'est toute la terre. Vous croyez que nous n'avons pas aujourd'hui des gens qui subissent des tribulations telles qu'ils sont bien dans une grande tribulation? La grande tribulation, c'est toute la tragédie humaine. C'est ça la grande tribulation. Par conséquent, cette foule qu'on ne peut pas compter, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, c'est la postérité d'Abraham, promise à Abraham, c'est cette postérité-là. Alors, il y a cela, puis alors, ça c'est pour l'éternité, par conséquent, pas cette multitude... Multitude, c'est pour l'éternité. Et puis alors, verset 8, c'est plus restrictif. Je te donnerai et à des descendants, pas à la postérité, allez, aux descendants. Ceux qui vont vraiment descendre d'Abraham par la chair. Et vous savez que Paul fera la distinction entre ceux qui descendent par la chair et ceux qui sont fils héritiers par la promesse. Héritiers de la promesse par Isaac. En Isaac, le fils de la promesse, le fils d'Abraham. Alors ici, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. D'ailleurs, dans le Lévitique, le Seigneur Dieu dit au peuple d'Israël, le pays que tu habites, le pays de Canaan, que je t'ai donné, que tu habites, c'est mon pays. Il m'appartient. Et vous, vous êtes des habitants, vous êtes des étrangers à qui je donne asile dans mon pays. C'est l'héritage que je vous donne sous des conditions, mais le pays m'appartient. Quand on pense à ça, je dis ça d'une façon incidente, on voit, les amis, toute l'erreur de la diplomatie mondiale, car elle est mondiale, qui veut soit déposséder entièrement cette jeune nation d'Israël, soit lui retirer encore une partie, la Transjordanie par exemple, n'est-ce pas, pour étrangler Israël dans une bande de 15 à 20 kilomètres le long de la mer, c'est-à-dire pour mieux ensuite l'étrangler. Eh bien, prendre ce pays, vouloir l'arracher à Israël, c'est vouloir voler le pays de l'Éternel. Il faudrait que les Arabes aient ça dans l'esprit, les Arabes et puis nos politiciens. Alors, on ne sait pas, on ne veut pas croire, alors vous voyez, n'est-ce pas, la privation de foi, n'est-ce pas, et la non-reconnaissance de la Bible comme une parole de Dieu, amène ces résultats, c'est qu'on agit contre Dieu. Et c'est très grave. On agit contre Dieu. N'oublions pas que ces temps derniers, tous ceux qui ont agi contre Dieu sont plus de ce monde, sont plus là. Ils sont partis, ils ne sont pas restés très longtemps. C'est le pays de l'Éternel. Et l'Éternel le reprend actuellement pour le donner à son peuple. Qui peut s'opposer à ça? Et c'est ce qui, dans notre époque, n'est-ce pas, c'est quelque chose de très sensationnel. Cette opposition de toute la terre à l'existence d'Israël ou à la reconnaissance, n'est-ce pas, du droit d'Israël de s'établir dans ce pays qu'on appelle la Palestine maintenant, ça montre que toute la terre est entraînée par son maître, le Dieu de ce siècle, par Satan. Elle est entraînée, c'est Satan qui fait tout cela. Déjà, il a mobilisé les nations, vous voyez, contre le pays de l'Éternel. Alors, cet héritage est un héritage pour l'éternité, dans le sens du donné au nom d'Abraham, père d'une multitude de nations, et dans 18:18, nous voyons ceci, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en plus, en lui seront bénies toutes les nations de la terre. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. La postérité d'Abraham, c'est la postérité de Christ. Et c'est Abraham qui en reçoit le premier, la promesse. Et cette promesse, je ne vais pas aller plus loin, elle est renouvelée à Isaac, et renouvelée encore à Jacob, et à Jacob, c'est en 28-14, voici en quels termes, « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. » Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, septentrion au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est pourquoi Paul ne dit pas élu, n'est-ce pas, en Abraham, il dit élu en Isaac. Isaac. Parce que c'est de cette branche-là, dans cette branche-là que l'élection est venue. Et c'est cet héritage du monde, Paul l'appelle l'héritage du monde, cet héritage du monde qu'Ésaü a méprisé et vendu pour un plat de lentilles, c'est cet héritage-là, pas seulement les troupeaux de son père, les grands troupeaux et les serviteurs, ben, c'est l'héritage du monde qu'il a vendu. D'où vous comprenez la colère de Dieu contre cet homme qui a été un profane et qui a vendu pour un plat de lentilles son droit d'aînesse. Il a vendu l'héritage du monde et Dieu l'a fait recueillir par son frère Jacob. Et notons une réciprocité, je la note en passant, je ne vais pas m'arrêter sur les textes, c'est que Dieu lui-même se veut l'héritage de son peuple. Dieu se donne comme le partage de son peuple. Tu es mon héritage. Dieu est l'héritage aussi de son peuple. Il y a une réciprocité. Si bien que nous voyons déjà se présenter dans la notion d'héritage qui se forme tout au long de l'Ancien Testament, c'est-à-dire au cours de la progression de la révélation de Dieu, cette notion se complète, se forme, prend ses contours, et nous voyons qu'elle s'apparente beaucoup à quoi ? À la communion. Et l'homme a un héritage que Dieu lui donne, et Dieu considère l'homme comme son héritage. Vous voyez, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il y a toujours, voyez-vous, il plane sur cette belle notion d'héritage, toujours cette grande réalité de la communion qui est une réciprocité. Une réciprocité. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Deux démarches inverses l'une de l'autre pour créer ce lien total, ce double lien avec l'homme. Alors, l'héritage que Dieu réserve aux saints, c'est ce que l'homme va saisir de la promesse de Dieu, et puis Dieu, lui, saisit les hommes à qui il donne cet héritage. Ils sont son héritage, et lui est leur héritage. En tant que fils, c'est Jésus qui est l'héritier. L'héritier. Nous avons dans Marc 12, verset 7. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Ça, c'est une parabole, bien entendu, la parabole des vignerons, et qui voit venir le fils de cet homme qui planta une vigne dans la parabole. Il voit venir après des serviteurs qu'ils ont outragés et qu'ils ont tués, qu'ils ont battus et tués. Alors, il voit venir un fils bien-aimé. Et vous comprenez que dans la parabole, le fils bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus, il l'envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils, mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et bien, l'héritage, c'est pas comme ça qu'on le prend, n'est-ce pas? On le prend en étant uni avec le fils et en recevant de lui la grâce du pardon et de la vie. Donc, c'est Jésus qui est héritiers. C'est dit aussi dans le début de l'épître aux Hébreux. Et les saints, eux, les saints de l'Église, sont des fils d'adoption et par conséquent des co-héritiers avec Christ. Co-héritiers. Ils vont partager l'héritage du Fils. Et Jésus ne va pas jouir tout seul de son héritage, il va en jouir avec ses frères. Les hommes devenus ses frères, qui seront à son image, il va en jouir avec lui. Je passe les textes, nous n'avons pas le temps de les consulter. Ils sont dans Romains 8, 17, Galates chapitre 3 et chapitre 4, Hébreux 9, verset 15. Et il y a, j'ai lu un texte tout à l'heure qui nous montre que nous sommes héritiers. Et l'apôtre Paul dira aussi co-héritiers. La possession complète et définitive de cet héritage est et reste un objet d'espérance jusqu'au moment où nous quittons cette terre, chacun pour notre part, n'est-ce pas? Nous sommes un des multiples héritiers ou co-héritiers de Christ, mais nous ne rentrerons en possession que en quittant cette terre, et à condition bien sûr de la quitter dans les conditions que Dieu a fixées, c'est-à-dire dans la sanctification. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. L'héritage des promesses de Dieu, donc, est réservé aux saints, c'est-à-dire à ceux qui ne se relâchent point et qui imitent ceux qui les devanciers, qui ont eu, eux, beaucoup de foi et de persévérance. Et le chapitre 11 des Hébreux va nous donner déjà un aperçu sur cela. Mais cet héritage, qui est l'objet d'une espérance, quel est-il? Eh bien, il est la cité de Dieu, sous un jour, n'est-ce pas, précis, objectif, et il faut, Dieu est objectif, la promesse est objective, comme la prière, disions-nous l'autre jour, doit être objective, la promesse de Dieu est objective, et on lui a fait perdre souvent son objectivité. Mais il faut la restituer, la Bible nous montre quelque chose d'objectif. Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alors cet héritage, c'était Canaan, n'est-ce pas? Mais si nous allons au verset 10, au verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ah ben j'aurais dû dire tout. Alors je reprends verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ainsi, Abraham nous dévoile ce passage. Ne se contentait pas de l'héritage de Canaan pour lui et sa descendance, et il savait qu'il allait rester là comme étranger, ce que dit le Lévitique, je l'ai rappelé, le pays est à l'éternel, et vous êtes là, vous, des étrangers habitant sur mon pays, vous êtes comme de sont des étrangers qui habitent un pays, enfin, je vous prête le pays, je vous le concède, mais il est à moi. Eh bien, Abraham ne se contentait pas de cela, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte. Il s'agit de la cité céleste, il ne s'agit pas de Jérusalem. Alors, c'est extraordinaire qu'Abraham ait pu avoir cette foi allant si loin, cette espérance dépassant la possession de Canaan. Dépassant la possession de Canaan. Et Canaan nous apparaît alors dans cette perspective comme vraiment la figuration du royaume de Dieu, de l'héritage, mais n'est pas l'héritage définitif. Voyez, n'est-ce pas? Et cependant, c'est bien là que le Seigneur règnera pendant le millénium. Il sera roi de Jacob. Roi de Jacob. Oui, il va être roi de Jacob là. Mais ensuite, tout va se transporter sur une nouvelle terre. Et puis, le verset 14, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Voilà l'héritage. Le voilà. Et l'héritage du monde a été remis à Abraham, mais Abraham savait que l'héritage du monde, c'était pas l'héritage dans ce monde, mais l'héritage dans un autre monde, dans un autre siècle, et même dans un autre lieu, dans un lieu céleste, une cité céleste. C'est-à-dire qui n'est pas terrestre. Céleste est pris par opposition à terrestre. Ne croyez pas qu'il faut que ce soit très loin, n'est-ce pas? Mais céleste veut souvent intervient comme un terme qui s'oppose à terrestre. C'est-à-dire au-delà de la terre, en dehors de cette terre-là, une cité céleste. Ce qui ne veut pas dire une cité éthérée, immatérielle. Pas du tout. Il s'agira de ressusciter, qui auront un corps que le Seigneur Jésus a montré comme étant un corps de chair, bien que spirituel et céleste, et par conséquent, bien entendu, les ressuscités auront un cadre de vie qui sera en rapport avec leur propre personne, leur propre corps. Nous avons une terre qui est en rapport avec nos corps, n'est-ce pas, tels qu'ils sont. Eh bien là, cette terre sera en rapport avec les corps célestes et spirituels. Mais ce sera un lieu, une terre, quelque chose de concret cependant. On peut appeler cette cité aussi bien spirituelle que physique. Cette cité où les rachetés seront appelés à régner éternellement avec Dieu. Plusieurs passages, notamment la deuxième épître de Pierre, nous montrent cela, que les rachetés sont appelés à régner éternellement avec Dieu. L'Apocalypse s'y attache même dans ses derniers chapitres, n'est-ce pas, à nous montrer ce règne avec Dieu. Dieu sera au milieu d'eux. Il n'y aura plus ni larmes, ni angoisse, ni inquiétude, ni douleur, n'est-ce pas? Et Dieu sera au milieu d'eux. Alors, ce règne éternel avec Dieu est un règne qui ne peut pas s'écouler sur cette terre-là pour la raison majeure, elle est difficile peut-être cette raison à saisir, mais c'est la raison majeure, c'est que c'est un règne avec Dieu et par conséquent, hors du temps. Hors du temps. Dieu ne se tient pas dans le temps. Il intervient dans le temps, mais il ne se tient pas dans le temps. Or, même le millénium, et c'est pour ça qu'il est millénium, c'est-à-dire qu'une durée lui est assignée, le millénium est un règne qui se déroule sur cette terre rénovée. Hein, cette terre soumise à la palingénésia, c'est-à-dire au nouvel engendrement. Alors, sur cette terre-là, le Christ règnera 1000 ans, bien, mais ça c'est dans le temps, c'est un règne dans le temps, et ça ne peut pas rester là. Il faut que ça entre dans l'éternité. Et pour entrer dans l'éternité, il faut donc que cette terre s'en aille, Jean la voit disparaître. Je ne sais pas où elle va, elle s'en va, elle disparaît. Disons pas elle est détruite, disons elle disparaît. Hein? Elle disparaît, et puis elle a été rénovée, moi je ne crois pas qu'elle soit détruite, mais elle ne peut plus servir de séjour. Et alors, tout se transporte sur « je vise une nouvelle terre ». Alors là, il n'y a plus de mer. Le soleil, elle n'a pas besoin du soleil, elle n'a pas besoin de la lune, elle n'a pas besoin de lampe pour éclairer. Dieu est sa lumière. Magnifique, c'est hors du temps. Hors du temps, car Dieu lui-même ne peut être là pleinement présent, car il sera pleinement présent. Il sera visible face à face, nous verrons face à face. Nous n'avons pas le droit de retrancher quoi que ce soit par spiritualisation, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu ne peut être situé, ne peut se situer, lui, que hors du temps. Ah, ça, nous ne pouvons pas comprendre hors du temps. C'est pourquoi les révélations qui nous sont données de la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem, sont des comparaisons, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit l'autre jour, Jean a employé un langage humain, il a été obligé de faire entrer dans un langage humain ce qui ne devrait pas pouvoir s'exprimer, ce qui ne peut pas s'exprimer en langage humain. Ce sont en somme des paroles, non seulement des paroles ineffables, comme dit Paul, mais des choses ineffables, n'est-ce pas, des choses qui ne s'expriment pas. Mais cependant, l'Esprit a voulu ce tour de force pour nous, pour que nous ayons tout de même, n'est-ce pas, de quoi nous attacher, et de quoi nourrir notre espérance, de quoi toucher un peu du concret de ce qui nous attend. Alors Dieu a voulu que cette cité sainte soit tant bien que mal, disons, n'est-ce pas, décrite dans un langage humain. Alors Jean dit, eh bien, il y avait là une grande étendue, une grande place. Alors c'était comme du verre, et puis c'était aussi comme de l'or. C'était comme, n'est-ce pas. Vous voyez, il est obligé de d'employer, n'est-ce pas, des termes qui sont approchés simplement, n'est-ce pas, nous permettent d'approcher cette grande réalité. Alors c'est pour ça, n'est-ce pas, qu'il est vain d'en discuter. Gardons la description de Jean telle qu'elle est, n'y touchons pas, même par la pensée. Prenons la cité telle qu'elle nous est donnée, un point, c'est tout. Voilà la fidélité, et voilà le moyen de ne rien retrancher à la parole qui nous est donnée. Eh bien donc, les élus jouiront des différents biens du royaume dont ils doivent hériter. Alors ce royaume, c'est bien entendu la cité. Ils hériteront la terre. Les débonnaires, je rappelais ça tout à l'heure dans les Béatitudes, Matthieu 5, les débonnaires hériteront la terre. Mais ils hériteront cette terre-là, essentiellement. Bien sûr, les débonnaires vont aussi les racheter, vont aussi régner avec Christ pendant le millénium. Mais cela n'est que transitoire. Et ce qui est éternel va venir ensuite, c'est cette terre, elle est une terre, elle est appelée terre dans l'Apocalypse. C'est une nouvelle terre. Jean l'a vu, cette nouvelle terre. Eh bien, ils hériteront cette terre, les débonnaires, les doux, ils l'auront pas conquise par des actions violentes, ils l'auront héritée. C'est le règne avec Dieu, donc, pour l'éternité. L'héritage comprend l'incorruptibilité des corps, des âmes, incorruptibilité. Inébranlables, incorruptibilité. Il y aura la gloire de Dieu. On ne peut pas s'imaginer ce que peut être le séjour dans la gloire de Dieu. Moïse a eu 5 heures. Seigneur, montre-moi ta gloire. Ah, la gloire de Dieu qui sera non seulement quelque chose, n'est-ce pas, qui va enchanter, merveiller les cœurs, mais cette gloire de Dieu, ce sera aussi une vue indescriptible des délices, un héritage de délices, selon un mot de l'Ancien Testament, et puis la grâce de la vie sans fin, de la vie éternelle, de l'immortalité de Dieu, ils l'auront. Elle a été rapportée par Jésus-Christ, mise en évidence par Jésus-Christ, cette immortalité, elle est venue, elle sera acquise à tous les saints qui auront part à cet héritage, l'immortalité en la présence de Dieu. La présence, la vue de Dieu, les anges, nous dit Jésus déjà dans ce temps, voient la face de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, nous verrons nous aussi la face du Père qui est dans les cieux. C'est merveilleux, chers amis, merveilleux, que le Seigneur nous donne tous part à cet héritage, et sanctifions-nous pour cela. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, oui, tu nous as préparé un héritage qui ne se peut ni flétrir, ni corrompre, et que tu nous as réservé dans la lumière, ô notre Dieu. Puissions-nous maintenant être de ceux qui ne se laissent point corrompre, ô notre Dieu, que nos cœurs, nos pensées ne soient point corrompus par la pression du monde et du temps, ô notre Dieu, mais que nos cœurs étant ouverts à ta grâce, la lumière y afflue, la lumière de Christ, et que en nous soient présentes les forces venant de l'Esprit de notre Dieu, qui nous feront marcher à la lumière de Jésus-Christ, pour aller dans la lumière jusqu'à cet héritage qui nous est réservé dans les cieux. Et nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, car cet héritage, nous l'avons, tu nous l'as réservé, nous l'avons et nous te bénissons, nous te louons dans le nom de Jésus. Amen.